Chapitre 19. Sourcils froncés, Pfister se pencha un peu plus vers Richard.
« Pardon ? » ?»«
Je suis le morceau de fromage, l'appât. » »«
Oui, nous savons que c'est vous qu'ils veulent, mais nous les empêchons de passer, nos défenses tiennent. » »«
Justement, je ne veux pas qu'elles tiennent. » Déconcerté par ce qu'il entendait, Pfister semblait surtout de plus en plus inquiet.
« Seigneur Rall, vous devriez laisser cette jeune femme vous soigner. Quand vous irez mieux, nous pourrons parler logiquement. Moi, je vais aller rejoindre mes hommes. »
Alors que l'officier faisait mine de se relever, Richard tira son épée hors du fourreau, de quelques centimètres seulement. Pfister s'en aperçut et s'immobilisa. Manquant visiblement de force pour dégainer totalement son arme, Richard tourna les yeux vers Callan.
« Aide-moi !»
Avant même de l'avoir entendu, Callan détesta le plan de son mari. Elle s'exécuta quand même. Sans doute Richard espérait-il que l'épée, une fois au clair, lui fournirait davantage de force. Et si ça advenait, peut-être gagnerait-il assez de lucidité pour prendre l'exacte mesure de la situation. Alors, il s'apercevrait que Pfister faisait tout ce qui était en son pouvoir, mais qu'il avait besoin de l'aide de son chef. Regardant autour d'elle, Callan remarqua qu'il y avait de plus en plus d'escarmouches à l'intérieur du camp. Richard voulait-il dégainer son arme pour se mêler à ces combats? Le long de la ligne de défense, les soldats continuaient à tailler en pièces des Shuntuks, mais des renforts arrivaient sans cesse. Bientôt l'épuisement tomberait sur les hommes, les privant de leur efficacité. Zed lançait toujours des sorts, mais avec de moins en moins de résultats. Soudain, il renonça et commença au contraire à soigner les blessés. Nietzsche l'imita. Tout ça sentait la fin. L'inquisitrice ne vit pas Irena, ce qui n'était pas inquiétant en soi. Elle espéra cependant que les demi-humains ne s'étaient pas emparés d'elle. Très proche de sa mère, Samantha avait déjà vécu cette épreuve une fois et elle ne méritait pas que ça recommence. Refermant ses deux mains sur celles de Richard, Callan l'aida à dégainer l'épée, qui émit sa note métallique habituelle et reconnaissable entre toutes. En l'entendant, quelques soldats marquèrent une courte pause et tournèrent la tête. Voir le seigneur Rall épée au poing leur redonna du courage. Maintenant que la lame était à l'air libre, la colère de l'arme était devenue un torrent de fureur. Dans les yeux gris de Richard, Callan vit que cette rage générait l'énergie dont le sourcier avait besoin. Mais la magie de l'arme était complémentaire du pouvoir de Richard. En d'autres termes, leur puissance se combinait, mais... pour l'instant, le sourcier n'avait même pas assez de force physique pour répondre à l'appel de sa lame. Voyant que Richard tendait son bras libre, Pfister le saisit pour l'aider à se relever. Samantha tenta de ne pas perdre le contact, mais quand il fut debout, elle dut se résigner à ne plus pouvoir lui toucher la tête. L'épée au poing, Richard n'avait plus besoin de l'aide de la jeune magicienne. Elle resta pourtant près de lui, juste au cas où. Une fois sur ses pieds, Richard balaya du regard le champ de bataille.
« Si nous continuons à jouer selon leurs règles, nous ne tarderons pas à perdre. »« Comme si nous avions le choix, »
marmonna Pfister.
« Lieutenant, tu penses au problème, pas à la solution, » souffla Richard en regardant attentivement autour de lui.
Pfister dévisagea un moment son seigneur, comme s'il tentait d'évaluer sa lucidité. Après tout, il pouvait délirer. Callan ne tomba pas dans ce panneau. Même si elle n'aurait su dire ce qu'il avait à l'esprit en ce moment précis, elle connaissait la façon de penser de son mari. Il ne délirait pas, réfléchissant au contraire comme le Richard qu'elle côtoyait depuis si longtemps. En un sens, ça la réconforta. Alors que tous les autres se concentraient sur le problème, il pensait à la solution. Il regarda sur un côté, sondant les ténèbres. Sans savoir ce qu'il voyait, Callan se souvint qu'il avait une bien meilleure vision nocturne que la plupart des gens. Dans le noir, il se repérait presque aussi bien qu'un chat.
« Les Shuntuks se moquent de leur perte, » dit-il. « Et ce, d'autant plus que leurs magiciens raniment les morts. Plus nous faisons de victimes, et plus leurs réserves de morts vivants grossissent. Et ces monstres-là sont encore plus difficiles à éliminer que les demi-humains. Nos hommes fatiguent. La situation va se dégrader. »
« Ce sont des soldats de la première phalange, »
rappela Pfister.
« Ils combattront jusqu'à leur dernière goutte de sang. »
« Les Shuntuks ne se battent pas très bien, et ils n'utilisent pas d'armes, »
fit Richard comme s'il n'avait pas entendu la remarque de l'officier.
« Nos hommes sont les meilleurs !»
insista Pfister.
« Et vous le savez, seigneur Hall, nos meilleurs combattants, les Shuntooks, eux, sont de médiocres guerriers !»
Richard s'intéressa enfin à son compagnon.
« C'est vrai, mais la supériorité numérique a ses avantages, et contrairement à nous, ils se fichent de leur perte. »
Pfister décida d'abandonner la polémique.
« Vous avez une idée, seigneur Hall ?»
Richard fit un geste circulaire avec son épée.
« Ce camp adossé à une muraille rocheuse n'est pas le pire endroit pour se battre, mais pas le meilleur non plus. En fait, la configuration du terrain se retourne contre nous. Nous sommes coincés ici, et les demi-humains se focalisent sur une cible fixe, choisissant les endroits où attaquer le long de nos lignes. Nous ne pouvons pas bouger, et ça devient un gros désavantage. Il faut les attirer sur un terrain qui joue en notre faveur. » Un endroit où nous pourrons les prendre en tenaille et les harceler par derrière.
Pfister étudia le terrain au-delà de la ligne de front. Des Shuntooks continuaient à débouler de toutes les directions.
Mais comment espérer réussir ça? Nous sommes coincés sur cette butte et eux sont éparpillés dans la forêt. Comment les localiser? Et plus encore, les forcer à se regrouper afin de les prendre en tenaille?
En modifiant la donne, nous devons les attaquer depuis au moins deux directions et les écraser.
L'officier fronça les sourcils.
Seigneur Hall, ce que vous dites est censé, en théorie, mais dans le cas qui nous occupe, ça revient à vouloir encercler des fourmis. Nos adversaires grouillent partout ici.
Une fois encore, tu me parles du problème.
Mais je le connais déjà.
Avec son épée, Richard désigna la muraille rocheuse.
Cette falaise est en fait un des côtés d'une gorge qui prend naissance beaucoup plus haut qu'ici. Ça signifie qu'il y a un défilé derrière. Tu vois le ruisseau sur un flanc où nous nous approvisionnons en eau? Avant d'arriver ici, il coule dans ce défilé.
Sans doute, mais ça nous avance à quoi?
Il faut attirer les Shuntooks dans ce passage. Sur un terrain en pente, entre deux murailles rocheuses escarpées, ils ne pourront pas se déployer. S'ils nous suivent dans le défilé, ils n'auront qu'une option, s'y engouffrer en rang serré. Contourner l'obstacle pour nous piéger à la sortie semble impossible, et s'ils essaient, ça nous donnera une occasion de filer dans la direction opposée.
Pensif, Pfister étudia le terrain d'un œil nouveau.
Avant d'entrer dans le défilé, continua Richard, il faudra poster des hommes sur les deux flancs. Ils devront procéder discrètement en se glissant dans le passage, puis en escaladant les pentes pour se cacher derrière des rochers. Dès qu'ils seront en position, nous nous précipiterons dans le défilé comme si nous tentions désespérément de fuir.
Et si les Shuntooks ne nous suivent pas?
Ce sont des prédateurs. L'instinct de la chasse est en eux, c'est même le plus puissant qu'ils possèdent.
L'intérêt de Pfister s'éveilla.
Et après, la tactique du marteau et de l'enclume?
Exactement.
Quand nous nous serons assez engagés dans la gorge, les hommes cachés sur les flancs descendront fermer la porte aux demi-humains. À ce moment-là, nous ferons demi-tour et attaquerons. Sur un terrain exigu, l'avantage du nombre se retournera contre eux.
Callan et Pfister regardèrent l'endroit où le ruisseau jaillissait d'un flanc de la muraille de pierre. L'inquisitrice n'aurait pas juré que la zone était configurée comme le disait Richard, mais sur ce sujet comme sur bien d'autres, elle lui faisait une confiance aveugle. Ayant passé une longue partie de sa vie dans la forêt, il savait de quoi il parlait.
Pfister se massa le menton, puis regarda son chef.
« Et comment allons-nous les inciter à nous suivre dans un tel trou à rats? Ce sont des prédateurs, pas des soldats aguerris, c'est vrai, mais ils ne sont pas idiots. »«
Fais-moi confiance, ils nous suivront, » affirma Richard.
Callan devina qu'il avait un plan. Et pour ne pas changer, elle n'allait pas aimer ça. Mais alors, pas du tout.